Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bienvenue à la Conspiration des Planches sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Une conspiration sous le soleil. Je suis moi-même éblouie par le t-shirt de Nurten, d'un jaune bien flashy. Bonjour Nico à la technique. Alors aujourd'hui, on va visiter des planches diverses et variées. D'abord avec Wim van de Keibus qui nous dit qu'il a tout faux puisque sa création s'appelle Radical Wrong. On parlera aussi d'un Fedo au Théâtre des Galeries, La Puce à l'oreille, un classique fidèle au style des galeries. Et puis on découvrira aussi Doute au public. Avant d'aller voir une reprise, les monologues voilés aux poches, et de vous annoncer Lettre à une actrice au Tanner, et aussi de faire un petit tour de la compile d'avril en danse. Voilà, on commence d'ailleurs par la danse avec Wim van de Keibus.
Oui, alors le spectacle, comme tu le disais Catherine, s'appelle Radical Wrong. C'est un spectacle qui voulait être un anti-spectacle, en tout cas c'est ce qu'il dit dans le propos, et pourtant c'est bien un spectacle. L'idée c'est quoi? C'est de faire un spectacle sur les jeunes, en tout cas à destination des jeunes, et quand on dit des jeunes ici, on dit des adolescents. Et Wim van de Keibus nous disait, ils seront peut-être pas sensibles à la beauté de la danse, donc il faut vraiment aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire au fond d'une pièce, au fond d'une salle, peut-être à se faire chier. Et donc sa mise en scène et son travail est assez, on va dire, rock'n'roll, ou en tout cas assez Beastie Boys. Beastie Boys, d'ailleurs, c'est une des musiques qu'il y a dans le spectacle. L'idée, c'est quoi? C'est 7-8 performeurs qui sont sur scène, et ça va s'enchaîner en forme de petites scénettes entre la danse, le mouvement, le chant, le cri, la rage, l'humour. Et un peu la fight. L'idée de scénographie est très simple. C'est une idée de festival. Donc il y a des tentes qui vont s'installer sur une scène nue. Il y a des tentes qui vont s'installer. Il y a une moto qui va passer. Il y a chacun dans sa tente. On se prend la tête, on danse, on essaie de roupiller, on essaie de s'aimer. Et donc c'est le principe même des petites scénettes. Ce qui est très très intéressant, déjà comme un prologue, les performeurs nous disent qu'ils emmerdent le metteur en scène et le scénographe qui les a mis là, parce que le metteur en scène et le chorégraphe, donc Wim van de Keibus, n'arrête pas de critiquer les danseurs en disant qu'ils sont mauvais, qu'ils savent pas danser et tout. Et donc c'est la première révolte des performeurs sur scène en début, c'est voilà, nous on t'emmerde, Wim van de Keibus va chier, et il s'approprie alors la scène véritablement. Ce qui est très intéressant, nous, à force d'aller au spectacle, c'est l'interactivité qu'il y a au public. Il y a vraiment quelque chose de très cohérent sur ces jeunes, entre guillemets, rebelles, c'est qu'ils prennent d'assaut le public. Et donc, bon, voilà, on ne va pas divulguer non plus ce qui se passe, mais il y a quelque chose d'assez...
On doit rester sur ses gardes, alors.
C'est une bande, hein, c'est une bande. Donc, ils déboulent dans la foule. Et donc, voilà, moi, je dis, faites gaffe, déposez toutes vos affaires au vestiaire, vaut mieux, et voilà. Alors, ce qu'on en retient, une rage de vivre, hein, quelque chose de très, pas James Dean, mais version belge, Bruxelles 2001.
Droit dans le mur.
Oui, quelque chose de... Voilà, il y a une moto qui vient, il y a tout un univers assez rock'n'roll. Les scènes, c'est... Voilà, on se disait... Moi, je me disais, c'était assez anecdotique. Voilà, le gars, il rêve, il raconte ses rêves à un moment donné, les plus fous. Une fille raconte son parcours avec son père, Cato, qui lui dit qu'il faut être vierge au mariage et qu'elle, elle a peut-être pas envie. Donc, on se dit, à un moment donné, c'est assez anecdotique. Et un des performeurs me disait, non, mais attends, moi, à 16 ans, j'en avais rien à foutre de la politique ou pas. Tout ce que je voulais, c'était m'amuser. Et si je pisser sur un fourgon, c'était plus par amusement que par revendication politique. Et c'est vrai que ça remet un peu les choses à leur place, quoi. Mmh. Voilà, on est là, on emmerde le monde, on s'amuse. C'est pas péril jeune, mais c'est un peu dans ce trip-là. Et une scénographie toute simple. Et malgré tout, il y a quand même de la danse. Wim van de Keibus est un chorégraphe. Et notamment, il y a une chorégraphie au kung-fu qui est à mourir de rire. Il y a une autre chorégraphie tout à fait inattendue avec des trios de recherche de tendresse sur une musique très douce de Nina Simone. Ça tombe un peu comme un calme, comme un aplat dans cette chorégraphie de fou. Et on se dit, voilà, il y a aussi de la danse. Et là, on voit que ces performeurs sont de vrais artistes drillés à la danse. Ils ont une formation de danse. Donc voilà, moi, ça a été un des coups de cœur parce que ça m'a fait tellement du bien. Déjà, la musique, elle est à fond. Hein, elle va à fond dans les Beastie Boys et tout ça. Il y a une énergie qui est très, très communicative.
Un peu comme si Demain vous déplaît sur ce même thème voilà, de l'adolescence. Voilà,
d'Armel Roussel.
Rageuse.
Et qui là était politique parce qu'il y avait un texte, c'était la perte des idéaux. Ici, c'est vraiment...
Mais c'est peut-être le résultat, justement. Tu dis la perte des idéaux, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est fini. Et que la jeunesse fait juste ça pour faire ça.
Moi, je crois qu'il y a encore des idéaux, on les voit moins, c'est moins tranché, c'est moins sous voilà un papier sous vide, on nous dit ce qu'il faut penser, mais c'est plus délicat et en même temps, ces jeunes ont l'impression que voilà, nous, on pense ou on pense pas, on s'en fout, on nous donne pas ce qu'on attend de nous, on vit quelque chose sur scène et c'est plutôt cette énergie. Chacun a des rêves fous qu'il explique sur scène et le temps passe comme ça. En tout cas, il y a une énergie hyper communicative et surtout rien que pour l'interaction avec le public, ça reste à voir. C'est vraiment cohérent.
Bah ça donne envie, c'est à voir jusque quand.
Alors voilà, en plus c'est au Bronx, une salle bien choisie qui fait normalement du théâtre pour enfants et qui ici fait un théâtre pour ados. Évidemment, c'est à destination des écoles et c'est à voir jusqu'au 10 avril. Alors, Wim van de Caybus disait, si un troufion, un petit bourgeois qui vient là pour voir le spectacle parce qu'il est obligé par l'école, il espère qu'en sortant, il se dise, mais putain, je suis quand même pas obligé de suivre le chemin que mes parents m'ont tracé. Donc, il espère que la révolte viendra des spectateurs adolescents.
Et on sent que Nurten a pu faire aboutir sa révolte. En voyant ce spectacle.
Mais on voit mine de rien que le spectacle chez les adolescents peut être un tournant dans leur... voilà, si un spectacle est bien fait, ça peut poser des questions et mettre l'adolescent sur des rails de réflexion. Le théâtre sert quand même à quelque chose.
Eh bien voilà, maintenant dans un style radicalement différent, on va aller au Théâtre des Galeries, dans le velours rouge des Galeries.
Ça s'appelle un grand écart.
Voilà, avec un vaudeville de Feydeau. La puce à l'oreille, hein, vaudeville assez connu, beaucoup monté, mais finalement très réussi dans son style. C'est-à-dire que c'est très énergique, c'est très dynamique, ça va à un rythme fou, et du coup on s'ennuie pas. Voilà, on n'est pas surpris, mais on passe un agréable moment. Alors le pitch, on s'y attend, c'est un couple dont la femme est persuadée qu'elle est trompée par son mari parce qu'il n'arrive plus à l'honorer.
Oh.
Vous comprendrez ce que je veux dire. Seulement lui, le pauvre, il a simplement un blocage psychologique, mais elle est persuadée du coup qu'il va voir ailleurs. Et en plus, elle a reçu ce matin-là les bretelles de son mari par courrier, qui venait d'un hôtel qui s'appelle l'hôtel du Minet Galant.
C'est formidable, je trouve.
Voilà,
on est dans un univers. Classique. Oui, mais c'est un univers, tout à fait. Même le nom des personnages, je vois que la dame s'appelle Champ de Bise, Raymond Champ de Bise.
Voilà. et puis, donc lui, Champ de Bise, un neveu qui a un défaut de prononciation, donc il ne sait prononcer aucune consonne, ce qui fait qu'on a du mal à le comprendre. Et ça aussi, on imagine que ça va amener beaucoup de quiproquos. Il y a l'associé de Champ de Bise qui est fou amoureux de Raymonde, mais elle n'est pas amoureuse, mais elle va quand même penser à l'exploiter pour se venger de son mari. Et puis finalement, au deuxième acte, tout le monde va se retrouver à l'hôtel du Minet Galant. Ça va cavaler dans tous les sens. Il y a dans une des chambres un système, parce que c'est évidemment un hôtel qui accueille beaucoup de gens, de personnes adultères. Donc il y a une mécanique prévue où on appuie sur un bouton et le lit pivote et on se retrouve dans une autre chambre. Et donc voilà, tout ça fait que le rythme va très 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 vite. Peut-être parfois en appuyant un petit peu trop sur les gags parce qu'il y a un tenancier d'hôtel qui est complètement torsionnaire et qui aime beaucoup fouetter son valet qui, pas de bol, est le sosie parfait de Champ de Bise en plus, ce qui ajoute encore une touche de complexité. Donc voilà, Les comédiens sont rompus à cet exercice, donc ça marche très très bien. Il y a les habituels Michel Poncelet. C'est mis en scène par Bernard Lefranc, qui est aussi un habitué du genre. D'ailleurs, c'est lui aussi qui va mettre en scène le médecin malgré lui, qui sera la pièce qui va tourner pour la tournée des châteaux des galeries. Donc les galeries qui se délocalisent l'été et qui vont jouer dans tous les manoirs et châteaux de la communauté française.
Et avec cette même équipe, hein.
Avec quasiment la même équipe et sans doute sur le même dans le même registre en tout cas. Donc voilà, pour passer un bon moment, bon parfois ça s'essouffle un petit peu, mais c'est peut-être plus en fait l'écriture qu'on connaît par cœur que le jeu ou que le rythme de la pièce, mais c'est voilà, si on a envie de passer une soirée sympathique sans se prendre la tête, il faut aller aux galeries voir La Puce à l'oreille et ça se joue encore jusqu'au 17 avril. Pour les réservations, il suffit d'aller sur le site internet www.trg.be.
Exactement.
Alors, on fait une petite pause musicale.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Oui, on embraye tout de suite avec Doubt, une des trois pièces à l'affiche du Théâtre du Public. Alors Doubt, certains connaissent peut-être déjà l'histoire, puisque c'est une pièce de John Patrick Shanley qui a été portée au cinéma avec Meryl Streep sous le même titre. Donc je dirais il y a deux ou trois ans. C'est l'histoire d'un pensionnat, d'une école catholique dirigée d'une main de fer par sœur Aloysius, qui ne va pas y aller de main morte pour accuser un prêtre qui entraîne une équipe de basketball dans cette école, pour l'accuser de pédophilie sans vraiment avoir de preuves. Pour l'affirmer. Voilà. Donc, sur ce thème-là, le problème, c'est qu'on a déjà vu d'autres films, justement, très forts, comme La Rumeur, qui était passée d'ailleurs sur Arte il n'y a pas longtemps avec Audrey Hepburn, et puis Les risques du métier avec Jacques Brel, voilà, où c'est l'histoire souvent d'un prof accusé par un des élèves de pédophilie et qui s'en sort difficilement dans ces cas-là. Voilà, donc là, on est dans une histoire assez prévisible. Il y a aussi un autre personnage, qui s'appelle Sir James, qui va en fait être à l'origine de cette rumeur, de ce doute, puisqu'elle va reporter donc à sa supérieure, cette nonne autoritaire, qu'elle a vu le père Flynn, d'ailleurs joué par Olivier Massard, qui s'en sort plutôt bien. Donc le père Flynn revenir d'un tête-à-tête avec justement un des élèves, le seul élève noir de cette école, puisqu'on est dans les années 60 dans le Bronx, il faut le préciser, et cet élève Donald Miller revient de cet entretien un peu troublé et l'haleine alcoolisée. Donc voilà, la sœur, cette jeune sœur naïve jouée par Caroline Kempeners est un peu perplexe et va donc en parler à sa supérieure qui va tout de suite sauter à certaines conclusions.
La machine s'emballe.
Voilà.
Mais comme tu dis, on a déjà vu cette histoire-là, mais si je me rappelle bien, lorsqu'il y avait eu la critique du film, tout tenait évidemment sur l'interprétation, parce que c'était quand même le face-à-face à l'époque de Meryl Streep et de Philip Seymour Hoffman. Donc je ne sais pas si ici, c'est l'interprétation qui doit vraiment porter cela.
L'interprétation n'est pas transcendante, mais ça tient la route. Donc, en fait, cette sœur Aloysius est incarnée par Patricia Hyde, et je trouve que ce personnage froid et rigide lui va très bien, en fait. Elle le fait assez bien. Olivier Massard s'en sort bien aussi parce qu'en fait, finalement, au final, on en sort en se disant, mais on ne sait pas vraiment s'il était coupable ou pas. Donc, ce petit doute persiste.
Il est déjà une réussite, ça.
Oui. Donc le petit doute persiste à la fin, mais il n'y a pas la tension qu'on aurait pu ressentir dans d'autres histoires de ce genre.
Il n'y a pas l'idée justement du crescendo, de la rumeur, de l'oppression, de la vindicte.
On se sent un petit peu mal à l'aise pour ce prêtre accusé à tort, et aussi pour cette personnalité de la nonne qui ne veut rien entendre, qui a des œillères comme ça. Et puis aussi, il y a un personnage très intéressant joué par Babitida Saggio, qui est la mère de cet élève noir, qu'on ne verra jamais d'ailleurs, l'enfant on ne le verra jamais, mais la mère va être convoquée dans le bureau de la nonne supérieure. Et finalement, on va se rendre compte que là aussi, dans ce contexte familial, à cette époque-là, il y a des choses un peu troubles. Donc, personne n'est ni blanc ni noir dans cette histoire. Donc finalement, voilà, le texte n'est pas mal. encore une fois, ça se laisse regarder. Il n'y a rien de novateur là-dedans, ni au niveau de la mise en scène de Michel Kastanelenbogen, ni au niveau des décors qui sont très froids. On est à la fois dans un, comme dans un couvent, et parfois dans une église, parfois dans le bureau de la sœur.
Et on est au théâtre, on sent le système du cinéma, le scénario du cinéma. Est-ce qu'on sent au théâtre ?
Non, on est
c'est
plus dans un
base,
registre
hein.
théâtral.
C'est une pièce
oui,
à la base.
Oui, à la base, c'est une pièce, en effet. Les transitions sont très bien agencées. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à redire. Sauf qu'il ne faut pas y aller pour y voir du théâtre un petit peu moderne. Voilà, il faut plutôt y aller pour y voir une histoire intéressante.
Combien une mécanique s'emballe.
Oui.
Voilà. C'est d'ailleurs à voir jusqu'au 7 mai. Au Théâtre du Public, 0800 944 44, 0800 944 44.
Tout est dit, la messe est dite.
Voilà, maintenant on va aller voir une reprise au Théâtre de Poche, la reprise d'une pièce qui a déjà énormément tourné, qui a eu un succès fou.
Et qui va encore tourner à l'international
cette fois. Et qui va ensuite repartir à Paris et ailleurs en tournée internationale. Ce sont les monologues voilés d'Adélaïde Rossen.
Tout à fait.
Que Sophie a vu et dont elle a ramené quelques impressions d'ailleurs.
Oui, pas enregistrées parce que notre pauvre Sophie est un peu souffrante, donc elle nous a envoyé quelques messages pour nous dire son impression a été tout à fait agréable, puisque l'ambiance dans laquelle nous entraîne la comédienne qui est Jamila Drissi, et qui partage l'affiche aussi avec Morgane Elboubsi et Ounas Gojalou, c'est une ambiance chaleureuse, conviviale et qui est propice aux confidences, parce que évidemment on va nous parler un peu comme sur le modèle du monologue du vagin, ce qui se passe sur cette condition de la femme et sur les sentiments de la femme dans les sociétés plus orientales, avec vraiment cette musique et ces chants doux et festifs, un éclairage, des canapés, des couleurs chaudes, une ambiance hammam et bonne copine qui se confie, nous dit Sophie. Alors, c'est quoi ? Eh bien, c'est un ensemble de témoignages drôles ou durs où on découvre d'autres visions de l'amour, du sexe, de l'intimité et du rapport au corps, au sein de la famille, du rapport à la virginité. Des récits d'excision différents de la vision compatissante occidentale nous sont offerts sur scène, avec des touches d'humour sur l'érotisme, la séduction, l'homosexualité féminine également, et le triste phénomène de la revirginisation, la découverte de certains aspects de la culture musulmane en termes de tradition, et pas uniquement de religion évidemment, puisqu'il faut faire la part des choses. Et puis il y a aussi des témoignages paradoxaux sur la relation à l'homme, tantôt sur la violence infligée aux femmes, tantôt sur le sex-appeal des orientaux, et c'est 1h30 que Sophie a trouvé sincère, douce et chaleureuse, mais je crois que vous aussi, vous l'avez vu il y a quelque temps déjà.
Oui, mais j'ai l'impression que tout est dit déjà.
Oui, ça a été fait, on l'a vu à la création, et comme tu dis, c'est sur le système des monologues du vagin. Donc c'est marrant, parce qu'avec le titre monologue voilé, on ne s'attendait pas à voir cet univers, en tout cas très, très sexuel, derrière le voile. Moi qui suis de toute façon de ses origines, je trouvais que c'était très bien ficelé, et on voyait bien toute l'ambiguïté avec un voile qui cache finalement des choses, pas des choses inexistantes. Moi, je dis toujours, dans le monde musulman, la dentelle ou le sous-vêtement en dentelle est très important. Et devant le voile, on ne se rend pas compte. Et donc, cette pièce, dans nos souvenirs, met bien cette sensualité féminine qu'on a l'impression qui est cachée par le voile et qui est là. Et toutes les parades que les femmes mettent en place, parce qu'une femme est une femme, on a beau la cacher sous toutes ses formes, elle sera toujours attentive. Et il y a aussi tout ce problème aussi de l'excision, et surtout de la reconstruction d'hymen, de la revirginisation, parce que ce n'est pas une comédie douce amère. Il y a aussi l'idée, comme dans les monologues du vagin, de prendre un propos qui est plus politique, celui-là, et qu'on ressent bien dans cette pièce, même si on n'évacue pas les clichés, le folklore. Voilà, il y a toujours une scène d'hammam dans une pièce un peu orientale. On n'échappe pas à la scène du hammam, et voilà. Et c'est trois comédiennes qui sont très très bien dans leur style.
Et aussi, et ça apporte beaucoup.
Voilà, un peu à la Rebetiko, un peu les Grecs, là, sur le sofa, elle joue du saz, hein, une guitare turque, et qui met, bon, elle gratte juste la guitare, mais ça fait très bien ensemble, les femmes qui s'allongent sur des canapés, il manque plus que quelques loukoum et quelques baklava.
Ouais, on s'y sent bien.
Voilà, c'est donc à vous. C'est donc repris aux poches jusqu'au 23 avril prochain, www.poche.be 02 649 17 27 pour les réservations.
Voilà, et après ces comédiennes sensuelles et délicates, peut-être une brève annonce d'une pièce hommage au théâtre et à la comédienne. C'est une pièce qui s'appelle « Lettre à une actrice » de Jean-Marie Piem et qui sera jouée par Viviane de Munck, qu'on connaît en fait de notre côté de la frontière linguistique depuis notamment « La chambre d'Isabella » de Yann Lowers, qui avait fait forte impression ici et au Festival d'Avignon. Voilà, et elle est en fait tombée par hasard sur ce texte. Elle avait une carte blanche à Marseille et elle avait envie de parler du théâtre. Une amie lui a passé le texte de Jean-Marie Piem, qui était écrit en fait il y a 10 ans déjà. Et voilà, elle s'empare de ce texte où Jean-Marie Piem parle de sa passion pour le théâtre, mais aussi des faiblesses de ce monde, de certaines réalités sur la vanité des comédiens, sur un monde où, si je me souviens bien, il dit que la crasse mentale y est aussi bien partagée qu'ailleurs. Et donc elle s'empare de ce texte, va le dire, va le lire, va le jouer, l'incarner, le danser même apparemment. Mais elle y ajoute aussi une part de conversation avec le public sur le théâtre. Elle va leur demander pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils attendent du théâtre, quelles sont leurs frustrations. Voilà, donc c'est toute une discussion.
Bête de scène, hein,
c'est une bête de scène. Moi, je suis curieuse de découvrir cet objet insolite. Donc c'est seulement 3 jours au Théâtre des Tanneurs, du 7 au 9 avril. Je pense que ce sera une expérience intéressante à vivre.
www.letanneurs.be.
Voilà. Et alors, on va finir par un petit tour de la compile d'avril. Qui se passe où, Nurten?
Alors, la compile d'avril, ça se passe à la raffinerie. C'est organisé par la raffinerie Charleroi Danse, avec son antenne à Bruxelles. Donc, la raffinerie avec la Bellonne et les Brigitines. Alors, ça a commencé vendredi dernier. Déjà dans une bonne ambiance qui montre un peu la danse dans son interdisciplinarité, comme on dit. Donc il y a un peu de tous les styles. Alors à voir cette semaine, je vais juste épingler les grands noms. Hein. Il y a de France Catherine Diverès qui vient avec un spectacle de danse qui s'appelle Encore. Et alors Encore, justement, ça, le titre l'indique pas, mais c'est une pièce sur le plaisir et le désir. Alors c'est Encore. Ça a l'air très baroque. C'est une dame qui n'est jamais venue chez nous et qui a un nom très connue en France. J'ai vu quelques extraits sur YouTube et c'est différents tableaux un peu à la Mosse aux Bontés où on voit des gens qui sont dans une boîte sur de l'électro et après on passe direct dans des robes plus scintillantes et on est dans une musique hyper baroque. Donc voilà, il y a l'air d'avoir plusieurs univers, toujours sur ce désir qui sous-tend chez les danseurs, c'est juste vu en extrait. Il y a aussi une espèce de star dans le milieu, on va dire, c'est Ivo Dimchev. Ivo Dimchev, c'est un performeur de chez Fabre. Maintenant, il fait son propre travail lui-même. C'est un Bulgare installé à Bruxelles. Et ici, il présente Eye On. Il fait un spectacle de danse ou de performance avec les sculptures d'un Autrichien, Franz West. Ça avait été donné à Performatique. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu de très bons échos. Et alors, le truc un peu plus loufoque et déjanté, on va dire, c'est Grand Magasin qui, eux, viennent avec les déplacements du problème. Et c'est tout un travail, notamment avec l'IRCAM, avec du son et de l'image, sur cette communication qui nous envahit, et pourtant on ne communique pas mieux qu'avant, bien au contraire. Donc il y a tout un, là c'est, on est plus dans l'humour avec des exemples à l'appui. Donc on voit comment c'est vaste, hein. On voit dans des effets de groupe, dans une performance avec des sculptures, et alors un monde beaucoup plus concret qui nous touche, le virtuel et tout ça, dans ce festival compile d'avril entre ces 3 lieux.
Est-ce qu'il y a un fil rouge à cette programmation, ou une singularité de ce festival en général, parce qu'il y a pas mal de festivals finalement en danse tout au long de l'année en Belgique, comment celui-là se distingue?
L'idée était justement de questionner la place du danseur, et finalement je crois qu'il y a peut-être une conférence sur la danse, mais c'est pas ce qu'on retient de plus. On voit la variété de la danse, comment la danse peut être dans plusieurs mouvements, donc tout ce qui est interdiscipline, mais le théâtre aussi, et dans strip pour l'instant le théâtre contemporain, donc comment on mélange un peu toutes les disciplines. Et on remarque depuis quelques années l'humour qu'il y a dans la danse, mais il n'y a pas un focus là-dessus. Eux vendent leur festival en disant voilà où va la danse, on va le questionner, mais il n'y a pas de grand moment de rencontre autour de ça. C'est plus un bouquet fleuri, on va dire.
Eh bien, il faut se ruer sur la compile d'avril. On va peut-être faire un petit tour pour résumer ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, si vous avez envie d'aller observer une bande d'adolescents rageurs, si vous avez envie de vous faire harceler par eux, apparemment, soyez prudents, mais allez les voir, c'est au Bronx. Pour un théâtre beaucoup plus classique, mais finalement assez réussi, à un rythme effréné.
Si vous voulez tromper votre compagne ou votre compagne, allez avant voir un vaudeville,
voilà,
ça va vous calmer.
Bonne idée. Aux galeries, pour des monologues sensuels, mais qui n'hésitent pas à dire quelques vérités sur une communauté qui est souvent habillée de clichés, allez voir les monologues voilés aux poches. Et puis pour un objet qui s'annonce étrange mais captivant, Lettre à une actrice, au Tanner avec Viviane de Munch. Et puis on l'a dit, la compile d'avril pour de la danse. Voilà. Bonne semaine et à bientôt.
À très bientôt. Le podcast de cette émission sera d'ici la fin de la semaine sur le site demandezleprogramme.be. Belle semaine à vous. La constelación.